vous écoutez les matins de France Culture, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La crise politique déclenchée par les Gilets jaunes risque d'éclipser des annonces majeures sur la politique énergétique en France. Emmanuel Macron doit les dévoiler ce matin, tout en annonçant un nouveau pacte social d'accompagnement sur la transition écologique. Nous analyserons cette séquence d'équilibriste dans un instant.
Et puis nous entendrons aussi que les Gilets jaunes commencent à se fédérer tout en se divisant. Difficile équilibre là aussi.
Emmanuel Macron, les deux pieds sur le frein. Voici ensuite le billet politique de Frédéric Saïs à 8h16. Avant cela, dans cette édition, nous irons aux États-Unis où le groupe automobile General Motors annonce la suppression de près de 14 000 postes. La direction évoque une restructuration nécessaire liée aux nouvelles pratiques de consommation.
Reportage ensuite en Afghanistan, dans un hôpital surchargé. À cause des raids incessants, le gouvernement afghan ne contrôle plus que 55% de son territoire.
Les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver ce mardi en France. 130 millions de repas sont distribués chaque année. Mais l'Europe pourrait diviser par deux son aide financière, nous y reviendrons. Il devait présenter ses arbitrages en matière de politique énergétique sur le long terme. Emmanuel Macron va devoir jongler aussi avec les revendications urgentes qui émergent dans le débat public depuis 10 jours. Revendications qui font passer le pouvoir d'achat avant la transition écologique. Ce matin donc, le chef de l'État présente officiellement la programmation pluriannuelle de l'énergie pour les 10 années à venir. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Hakim, Emmanuel Macron a pour cela invité les représentants des syndicats et du patronat.
Oui, une invitation aux syndicats et au patronat qui n'a pas forcément convaincu tout le monde, puisque la CGT ne viendra pas. Elle préfère se concentrer sur la hausse du pouvoir d'achat et du SMIC avec une manifestation, notamment samedi, tout comme la CFE-CGC qui représente les cadres, qui enverra juste un représentant. Mais les grands absents ce matin seront les Gilets jaunes, dont les représentants n'ont pas été invités par Emmanuel Macron. Ce dernier, le président de la République, indiquant qu'il n'y a aucun lien de concomitance avec les annonces faites ce matin sur l'énergie et la mobilité dans le pays. En attendant, les partenaires sociaux et le patronat présent ce matin ne viendront pas les mains vides de propositions. La CPME réclame un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant prévue le 1er janvier prochain, sur l'essence et le diesel. Une revendication partagée par Force Ouvrière et son nouveau patron, qui souhaite en plus généraliser la prime transport pour les salariés. La CFDT attend, elle, des réponses concrètes sur des mesures d'aide sur les trajets, notamment domicile-travail, et demande également plus de transports publics.
Et sur le fond, justement, Hakim, que sait-on ce matin des arbitrages faits par l'exécutif ?
Alors, on sait surtout que Emmanuel Macron est très attendu sur le nucléaire, d'autant qu'il a déjà annoncé, alors que Nicolas Hulot était ministre de la Transition énergétique, que le parc nucléaire ne passerait pas à 50% d'ici 2035 contre 2025 initialement prévu. Actuellement, le parc nucléaire est de 75%. Il devrait également annoncer la fermeture de 6 réacteurs nucléaires en plus de Fessenheim, c'est important de le préciser, d'ici 2028. Et enfin, il souhaite réduire de 40% les énergies fossiles d'ici 2030, Clara.
Merci Hakim Kasmi. Voilà donc pour cette stratégie à double détente, mêlant urgence et long terme, équilibre précaire. Alors que face à Emmanuel Macron, les Gilets jaunes, boudés, on l'a compris par l'exécutif pour le moment, les Gilets jaunes se structurent. Ils ont depuis hier 8 porte-paroles, dont les profils sont variés, intérimaires, serveurs, routiers, mais aussi militants, venant de Seine-et-Marne, des Côtes-d'Armor, des Bouches-du-Rhône ou encore de Charente. Ces personnes veulent être clairement identifiées. Pour engager, disent-elles, une prise de contact sérieuse et nécessaire avec les autorités. Mais leur représentativité fait débat, Anne Fauquemberg.
Les membres de cette délégation sont issus d'une coordination nationale des Gilets jaunes, coordination dont plusieurs membres se sont retrouvés à Paris le week-end dernier et qui a décidé donc de créer ses 8 rôles de communicants officiels. Marine Charette Labadie, 22 ans, s'est portée volontaire. Elle habite dans le département de la Corrèze.
J'ai été au SMIC, je suis en galère comme tout le monde en fait. Donc je pense pouvoir exprimer vraiment ce que ressentent les citoyens à travers ma personne en fait. Donc c'est pour ça vraiment que je me suis vraiment sentie concernée pour ce rôle en fait. C'est ça qui nous manque là-bas à l'Élysée. C'est quelqu'un qui est comme nous.
Représentative, oui, mais plus que quel autre gilet jaune. Sur la page Facebook La France en colère, le débat gronde, obligeant Éric Drouet, l'initiateur du mouvement des gilets jaunes, à s'expliquer.
Mais qui est-ce qui les a choisis du coup? Parce que nous, on n'a rien choisi.
Non, je sais, personne n'a rien choisi, mais nous, on a juste des c'est pas des représentants, c'est des porte-paroles. Il y aura personne peut représenter les Gilets jaunes.
Difficile d'apporter des réponses totalement convaincantes, mais la transparence, elle est là. Arthur Renaud est spécialiste des usages politiques d'Internet à l'Université de Rennes. Il voit un tout début d'auto-organisation.
On a affaire là, clairement, à une volonté de faire de la politique autrement, mais sans, pour certains, en avoir conscience et sans le revendiquer. Donc, on s'achemine vers une forme d'auto-organisation plus ou moins localisée, avec une volonté de ne pas rentrer dans une forme d'organisation classique.
Sachant que par rapport à Nuit Debout, dernière expérience en date d'auto-organisation politique, cette aventure est compliquée par une logique beaucoup plus territorialisée, avec des revendications parfois différenciées.
La preuve en est les requêtes des manifestants à La Réunion, plus vaste qu'en métropole. Face à la paralysie de l'île, le préfet annonce d'ailleurs que les prix des carburants et du gaz baisseront dès aujourd'hui, à la demande de la ministre des Outre-mer. Annick Girardin s'y rendra d'ailleurs demain. Là aussi, c'est la preuve d'une transformation difficile quand l'écologie se heurte aux questions sociétales. Officiellement, pour mieux investir dans les nouvelles pratiques de déplacement et dans les véhicules électriques notamment, General Motors annonce une sérieuse coupe dans ses effectifs. Le constructeur automobile va supprimer l'année prochaine 15% de ses emplois. Une décision, Pierre-Yves Dugas, qui a fait réagir dans la foulée hier le président américain.
Donald Trump s'est entretenu hier au téléphone avec la patronne de General Motors, Mary Barra. Il s'insurge contre sa décision, demande à GM de trouver une activité au moins pour l'usine de General Motors dans l'Ohio, qui est maintenant menacée de fermeture. Au total, 5 usines vont être dépourvues d'activité, car on y assemblait des véhicules qui se vendaient mal, pour l'essentiel, des berlines. GM, premier constructeur américain, annonce la suppression de 15% de ses effectifs et l'élimination de 25% de ses postes de cadres. GM veut réduire ses dépenses d'investissement pour allouer une partie de ses économies au développement de véhicules électriques et autonomes. Donald Trump a promis de relancer l'emploi industriel et il menace de droits de douane de 25% les constructeurs étrangers, notamment allemands. La décision de GM d'éliminer jusqu'à 14 000 emplois devrait encourager Donald Trump à frapper fort.
Donald Trump qui par ailleurs prévoit toujours de relever les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine vers les États-Unis. Elle est taxée à hauteur de 25% contre 10% aujourd'hui. Et ce, qu'importe son rendez-vous prévu en fin de semaine avec son homologue chinois Xi Jinping. Il est 8h passées de 8 minutes sur France Culture. Nous l'évoquons dans les matins. Le Parlement ukrainien instaure la loi martiale. Elle est appliquée dans les zones frontalières du pays pendant les 30 prochains jours. Une décision sans précédent depuis l'indépendance du pays il y a 27 ans. Une décision prise après la capture par la Russie avant-hier de 3 navires de guerre ukrainiens. Le décret prévoit notamment la mobilisation des réservistes et des mesures visant au maintien de l'ordre public dans le pays. Ce matin, le Kremlin s'en est ému, faisant part d'une sérieuse préoccupation. Moscou qui reste toujours sous le feu des critiques après cette confrontation maritime. Preuve en est hier, la réunion du Conseil de sécurité à l'ONU à ce propos, elle a tourné court Loïc Loury.
La Russie ne dictera pas l'agenda du Conseil de sécurité. La session du jour a été rejetée, notamment par Washington et les Européens. La réunion avait été intitulée « Violation des frontières de la Russie » par Moscou, inadmissible pour le représentant britannique Jonathan Allen.
La Russie a délibérément choisi un titre provocateur pour cette réunion, qu'il savait perdre. Pourquoi ? Je pense que la Russie sait à quel point sa position est fragile sur le fond. Elle tente d'attirer l'attention sur autre chose, elle joue les victimes. Ça ne marchera pas.
Nikki Haley, l'ambassadrice américaine sur le départ, a elle encore profité de cette tribune pour attaquer la Russie. À quelques jours d'une rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine, elle dénonce l'action illégale de Moscou.
C'est une action arrogante que la communauté internationale doit condamner et n'acceptera jamais. Les États-Unis seraient favorables à une relation apaisée avec Moscou, mais des actions illégales comme celle-ci continuent de rendre cela impossible.
Résultat, le représentant russe Dmitri Polanski a accusé les Occidentaux d'alimenter un sentiment anti-russe avant d'être pris à partie par son homologue ukrainien Volodymyr Yeltsenko.
Comment ça, vous ne comprenez pas? Nous avons été attaqués par la marine russe alors que nous allions vers le sud.
Ce à quoi l'ambassadeur russe n'a pas eu l'occasion de répondre.
Ukraine-Russie, va-t-on vers une nouvelle escalade militaire? Nous reprenons le débat après ce journal dans une dizaine de minutes avec Guillaume Erner et ses invités. Les informations venant d'Afghanistan ces dernières semaines, ces derniers mois, s'enchaînent et se ressemblent malheureusement. Hier encore, un attentat y a fait 22 morts, 22 policiers tués dans une embuscade des talibans. La communauté internationale l'évoquera sans doute aujourd'hui lors de la 13e conférence sur l'Afghanistan. Elle est organisée à Genève. 17 ans après l'intervention américaine qui a mis fin au régime taliban, le pays est toujours déchiré. Le gouvernement afghan ne contrôle d'ailleurs que 55% de son territoire. Dans la province du Helmand, par exemple, l'un des fiefs des talibans, 56% de la population est sous leur contrôle. Ces derniers jours, Afghans et Américains ayant intensifié leurs raids, quitte à toucher des civils. Sonia Ghezali s'est rendue dans le seul hôpital de la région encore en activité, à l'hôpital Emergency de Lashgarka, rencontre.
Bibi Shona est inerte sur son lit d'hôpital. Elle est paralysée des deux jambes et a été amputée du pied droit. La petite fille de 11 ans est issue d'une communauté nomade.
J'étais sous la tente et il y a eu des coups de feu très forts. Ma grand-mère s'était cachée dans un trou creusé dans la terre et elle m'a appelée pour que je la rejoigne. Quand je suis sortie, une roquette a explosé près de moi.
Le campement de Bibi Shona et de sa famille se trouve en zone contrôlée par les talibans, où les combats avec les forces gouvernementales font rage. Dans une autre chambre collective, Nissar, un petit garçon de 6 ans, immobile sur son lit. Matteo Rossi, le coordinateur médical de l'hôpital Emergency de Lashkarga, consulte son dossier.
Il a été admis ici il y a 5 jours avec des blessures causées par des éclats d'obus à l'abdomen et dans les jambes. Il vient de subir sa 5e opération. Il est en convalescence maintenant, il ne pleure jamais.
De nombreux enfants sont hospitalisés dans cet établissement qui soigne les blessés de guerre.
Il y a une tendance qui s'accentue, qui est qu'il n'y a aucun signe d'accalmie dans les combats, ni dans leur intensité. Ce que vous voyez ici, ce sont les résultats de cette longue guerre étendue qui ne s'arrêtera pas de si tôt, probablement.
Une guerre où les civils sont frappés de plein fouet, victimes de balles perdues ou non, d'éclats d'obus, de roquettes, de raids aériens. L'année dernière, ce conflit a fait plus de 10 400 victimes civiles. Un record qui sera probablement battu cette année encore.
C'était un reportage de Sonia Ghezali. La Chine ordonne une enquête pour vérifier les affirmations d'un scientifique chinois. Il assure avoir fait naître les premiers bébés génétiquement modifiés de l'histoire pour les rendre résistants au virus du sida. Un acte décrit par de nombreux chercheurs comme une folie, alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet international sur le génome humain à Hong Kong, justement. Le sida, détecté de façon trop tardive, souvent en France, plus d'un quart des personnes diagnostiquées séropositives en 2017 et 2018 l'ont été trop tard. Voilà ce que regrette Santé publique France. Et cela retarde leur prise en charge et freine la lutte contre la transmission du VIH, avertit donc l'Agence nationale de santé publique. La moitié des personnes aidées par les Restos du Cœur ont moins de 25 ans en France. Un chiffre donné à l'occasion de la 34e campagne d'hiver de l'association. Un chiffre pour alerter et pour demander une mobilisation de la part du gouvernement français, car les Restos du Cœur s'inquiètent des discussions en cours autour du budget européen entre 2021 et 2027. L'Europe, par son fonds d'aide aux plus démunis, finance actuellement un quart des 130 millions de repas distribués chaque année. Une aide qui pourrait être divisé par deux. Voilà ce que dit Patrice Blanc. Il est président bénévole de l'Association des Restos du Cœur.
Le Fonds européen d'assistance aux plus démunis, le FEAD, vient d'un projet lancé par Coluche à l'époque où il y avait des stocks de poudre de lait, de viande, de beurre dans les frigos de l'Union européenne et qui avait dit très logiquement bah, essayons d'utiliser ça pour l'alimentation des plus démunis. Aujourd'hui, il n'y a plus de stock dans les frigos de l'Europe, mais par contre, il y a un financement pour l'aide alimentaire pour les plus démunis des Européens. Pour nous, par exemple, au Resto du Cœur, ça représente un repas sur quatre. Donc, ce serait quelque chose de dramatique que cette proposition de la Commission européenne soit suivie.
Et l'an dernier, il y a eu 860 000 bénéficiaires en France chez les Restos du Cœur. Sur France Culture, nous lançons notre reportage en ligne sur Internet, reportage de la semaine, intitulé cette fois « Je partage mon repas ». Hashtag « Je partage mon repas », voici le mot-clé. Et témoignez donc, si vous le souhaitez, sur nos pages Facebook et Twitter jusqu'à vendredi. Les premières photos de la planète Mars commencent à arriver. Elles sont transmises par la sonde InSight, envoyée par la NASA sur la planète rouge hier soir. La sonde est équipée d'un sismomètre français, nous en parlions ici même hier. Les oreilles grandes ouvertes, elle écoutera donc les ondes de choc des météorites, les tremblements de terre et peut-être même les mouvements du magma sur les sols de Mars. Affaire à suivre. De nouvelles pluies sont attendues en France métropolitaine ce mardi par le nord du pays, tandis que le soleil devrait briller généreusement près de la Méditerranée. Ce matin, comptez 4 degrés à Strasbourg, 5 à Paris et sur le nord, 6 degrés à Bordeaux et Lyon, 9 à Marseille, 11 degrés à Bayonne et à Nice.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h16 sur France Culture. Dans une trentaine de minutes, Mathilde Serrel, dans son billet culturel, rendra hommage au cinéaste Bertolucci qui est mort hier. Les villes mondes, dans la conclusion d'Aurélien Bélanger. Mariupol, est-ce une ville-monde? En tout cas, c'est une ville en Ukraine, un port qui est au cœur de cette escalade qui a lieu actuellement entre l'Ukraine et la Russie et dont on parlera en compagnie de nos invités, l'enseignant à Sciences Po Florent Parmentier et l'ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, Andrei Gratchev, et puis un frein avec deux pieds dessus, c'est ça Frédéric Saïs?
Bonjour Guillaume, bonjour à tous, exactement, Emmanuel Macron, les deux pieds sur le frein après un début de quinquennat mené tambour battant.